C'est sacré, Dars. Qui nous est proposé. Ta magnifique Sainte Vierge. Pour la solennité de la Très Sainte Trinité. Le mystère de la Sainte Trinité, qui est un seul Dieu en trois personnes. Le mystère de la Très Sainte Trinité, c'est le Père qui nous a créés, c'est le Fils qui nous a rachetés par sa mort et ses souffrances, et c'est le Saint-Esprit qui nous a sanctifiés dans le Saint-Baptême. Rien n'est plus frappant que ce signe de la Très Sainte Trinité, qui est le signe de croix. Parce qu'il nous représente d'abord le mystère de la Sainte Trinité, deuxièmement, par le mouvement que fait la main du front jusqu'à l'estomac, il nous rappelle la descente de Jésus-Christ au sein de son Père dans celui de la Vierge Marie. Il nous rappelle la descente de Jésus-Christ du sein de son Père jusque dans celui de la Vierge Marie. Et troisièmement, le crucifixion de Jésus par la croix que nous formons. Et quatrièmement, le jugement dernier par le mouvement que fait la main de gauche à droite. Il faut faire le signe de croix avec un grand respect. On commence par la tête parce que c'est le chef, la création et le Père. Ensuite, c'est le cœur, l'amour, la vie, la rédemption. Le Fils. Et enfin, les épaules. C'est la force, c'est le Saint-Esprit. Bonne fête de notre Sainte Trinité. La fête de notre Sainte Trinité. Chaque année ce que la foi a failli oublier à propos de Dieu. Et il ne faut quand même pas oublier que la fête de la Très Sainte Trinité, moi j'ai connu des évêques très proches, très théologiens, très bien formés, qui enseignaient qu'Abraham ou Moïse ne connaissaient pas le mystère de la Très Sainte Trinité. Simeon et Nashi ne connaissaient pas. Les Juifs ne connaissaient pas. C'est Jésus qui nous a apporté la lumière et aussi nous a envoyé l'Esprit Saint pour qu'on puisse pénétrer à l'intérieur de la nature du Dieu unique et découvrir le mystère de notre Sainte Trinité et trois personnes. quand tu étais après les persécutions, pendant les trois premiers siècles de persécution, la communauté chrétienne, les successeurs des apôtres, se sont retrouvés avec la mémoire, hein, de la transmission de la foi et des sacrements. Mais vous le savez, hein, au niveau de l'histoire quand même, que pratiquement plus personne ne pénétrait, ne percevait, ne recueillait et ne transmettait de manière vivante la lumineuse présence de chacune des trois personnes dans l'unité de nature de Dieu, le mystère de Dieu dans la très sainte Trinité, et à tel point que l'Église catholique, donc c'était l'époque du IVe siècle, l'époque du concile, des tout premiers conciles, il a fallu faire des conciles. Les conciles sont venus de là. C'est que l'ensemble des successeurs des apôtres niaient, disaient qu'il n'y avait pas de Trinité. Dans l'unité, il n'y avait pas. L'unité dans la Trinité. Le mystère de la Trinité n'existe pas. Il a fallu que vous vous en rappelez peut-être que ce soit Saint Athanase, un seul des successeurs des apôtres, seul au milieu de tous les autres successeurs des apôtres, disent, mais enfin, il y a quand même une tradition infaillible qui est transmise par les apôtres. Et il s'est défendu contre tous les autres évêques pendant des années et des années. Il a été persécuté par les Nérons de l'époque qui ne versaient pas le sang, mais après avoir pas réussi à verser le sang de Jésus dans ses membres pendant trois siècles, ben le démon s'est mis à vouloir verser le sang des mystères. Et donc, Lucifer a essayé d'éventrer, si je puis dire, la foi dans la très sainte Trinité en terrorisant, en enclenchant tous les moyens possibles. Il y en a un seul qui a résisté, Saint Athanase. Au bout de 6 ou 7 ans de lutte, de persécution, d'exil, etc., de mise à l'écart et tout, il y en a un autre évêque qui est venu le rejoindre. Et c'est Saint-Hilaire de Poitiers. Mais sinon, il était tout seul. Hein. Il était tout seul. Et puis, finalement, il y a eu un concile. Et il a réussi à convaincre le pape. Mais sinon, le mystère, enfin, la foi de la très sainte Trinité a connu un moment d'une fragilité absolue. Donc, maintenant, grâce à Dieu, pourtant, quand même, Jésus, la dernière parole de Jésus sur la terre, d'après l'évangile de Saint-Marc, sur la terre, la dernière parole, c'est-à-dire aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle de l'évangile et baptiser-les tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par exemple, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, hein, aujourd'hui on est dans une très grande retour de l'éventration, si je puis dire, du mystère de la très sainte Trinité dans la foi catholique. On utilise pour ça différents moyens, l'exégèse historico-critique, en disant, mais oui, quand Quand Jésus dit ça, c'est un rajout, c'est une paire de ciseaux que les apôtres ont rajouté dans les évangiles après, parce que au deuxième siècle, les successeurs des apôtres, ils ont rajouté ce passage. Et puis aujourd'hui, on fait de l'exégèse, donc historico-critique, c'est-à-dire on utilise les paires de ciseaux, on dit ce passage-là. Non, on a inséré cet autre passage, de toute évidence, c'est pas le même style d'écriture, c'est pas le même sujet. Et puis ce passage-là, il se continue ici, là, par là. Mais ici, on a rajouté ça. Donc on détermine les passages qui ont été rajoutés, qui n'ont pas été rajoutés. C'est une composition qui s'est faite comme ça. C'est marrant parce que on est formé à l'exégèse dans les formations disons, modernes. Ben, on est formé à l'exégèse. Et en faisant ça, on dit, mais il n'y a pas un seul exégète, c'est ça qui est extraordinaire, qui est d'accord avec l'autre. Non, c'est pas là qu'il faut couper. Non, c'est là. Non, il n'y a pas un seul exégète qui est d'accord avec l'autre. Si, il y a celui qui est d'accord avec l'autre parce qu'il dit, un tel exégète dit ça, bon, moi je le redis, et moi je vais faire encore plus de précision. Si bien que la parole de Jésus qui vient nous annoncer, révéler les mystères de Dieu, qu'il avait déjà révélé à Moïse et à Abraham, mais de manière profondément secrète, profondément divine, disons. Et là, il les a déployés par dans l'incarnation de sa nature humaine. À travers sa nature humaine, il a déployé toutes les paroles justes et explicites sur le mystère de la très sainte Trinité. C'est sûr. Il a fait ça pour nous, il a rendu explicite ce qui était cru par Moïse, par Abraham et par tous les nations d'Israël et transmis aussi. Puisque par exemple la parole que nous connaissons par cœur en hébreu, le nom d'Elohim, tu prononceras mon nom. Et quand tu vivras à l'intérieur de mon nom, que tu prononceras, tu béniras la terre tout entière et tu multiplieras les enfants de Dieu. Là, si tu as prononcé le nom de Dieu, tu es au-dessus, tu es sur le trône des anges, voilà ce qu'il a dit à Enoch. Et on voit dans le Talmud, enfin c'est pas le Talmud en fait, c'est dans le Kaver Hazaya, mais dans les textes donc juifs, que chaque année, Moïse, Jésus, le Christ, le Messie, pardon, dans la tente de la réunion, a enseigné à Moïse. Mais qu'il fallait célébrer la très sainte Trinité de manière écrite, mais cachée. Et le grand prêtre, chaque année, une fois par an, mettait le nom d'Elohim sur le front, dans un petit parchemin, le fameux nom à 42 lettres, qui dit que Adonai Elohim, Elohim d'ailleurs c'est le pluriel, il y a un seul Dieu, mais il y a plusieurs manifestations à l'intérieur du monde ingré de Dieu lui-même en entier. Eh bien, Elohim, ce pluriel, il est Adon, il est Seigneur. Et Adonai, eh bien, il est dans le silence de l'intimité absolue, ouverte à toute puissance de Dieu. Abba, Aleph, Bet, Abba Elohim. Et ce silence qui est ouvert au secret de l'immense intimité, la plus profonde intimité de Dieu ouverte à la toute-puissance de Dieu. C'est le Père, Abba. Et Abba, c'est Dieu. Et cette profonde intimité ouverte à la toute-puissance de Dieu, elle est elle-même Dieu. Ben. Et sa manifestation glorieuse. Beit Nun. Ab Elohim. Ben Elohim. Et ça, c'est la royauté. On dit dans le Gloria, Rex Celestis, la royauté du Père. La royauté du monde spirituel. Être uni dans une unité de nature, dans un souffle. Et cette royauté, c'est l'Esprit Saint, Roi Hakadesh. Et cette royauté qui s'exprime dans l'unité d'un souffle. Respiration. Roi, Rech, va, hey. Et bien Elohim, c'est Dieu. Et avant de faire donner l'absolution au monde en raison du futur Messie qui viendrait nous sauver, le grand prêtre qui se revêtait des 8 vêtements. Et du Messie rentrait dans le Saint des Saints, faisait le tour du Saint des Saints, faisait le tour de l'Arche d'Alliance. Mais ce qui comptait, c'est qu'il le faisait avec le nom d'Elohim sur le front. Alors que personne ne vienne me dire que les Juifs ne connaissaient pas le mystère de la Très Sainte Trinité. Trois en un. Et sur le Ab Elohim, Ben Elohim, Roi Kadesh Elohim, Salashab, Arad, 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 Beshlacha. En trois. Bien sûr. Et c'était transmis, bien sûr. Par les Nachit Israël, comme dit saint Thomas d'Aquin, les Meliores, comme ça que saint Thomas d'Aquin appelait les Nachit Israël, cette transmission du ministère infaillible d'Israël. Nous, aujourd'hui, la transmission de l'infaillibilité, transmise par le Messie et son instrument, Abraham, Moïse, se transmet du deux par deux, quoi. Chaque génération, il y avait deux Nachit Israël. Et ces deux étaient choisis par Dieu. C'était pas le grand prêtre du Sanhédrin qui était Nachit Israël. C'était des... Par exemple, Élie et Élisée. C'était les princes d'Israël. Et il y a toujours eu des princes d'Israël qui, deux par deux... Ensuite, Jésus a choisi 12 apôtres qui a choisi lui. Et pour aller également de par deux, de manière, si je peux dire, horizontale. Le mystère de la Très Sainte Trinité, a souvent être considéré comme un secret qui n'était pas nécessaire d'exprimer explicitement, d'approfondir, de contempler. Mais Jésus, lui, nous a donné l'Esprit Saint pour qu'on puisse contempler le mystère de la Très Sainte Trinité. Parce qu'on adore le Dieu unique, mais on contemple les trois personnes. Et comme Jésus est venu nous apporter à travers la chair de notre nature humaine, de quoi recevoir la Lumine Gloriae, c'est-à-dire la vision du face-à-face. Alors oui, il explicite le mystère de la très sainte Trinité, son mystère à lui, parce qu'il est Dieu, hein, au même titre que le Saint-Esprit. Il est Dieu au même titre, dans son hypostase, hein, attention. Moi, au début que j'étais prêtre, on m'avait chargé d'aller fêter la solennité de la très sainte Trinité dans un endroit de pèlerinage qui était très important. Tout le monde venait de très loin et, à la chapelle de la très sainte, l'église de la Trinité. Bon. Et c'était l'église de la Trinité. Les gens venaient, c'était vraiment dans les montagnes, mais les gens venaient, c'était une très vénéré. Et je me rappelle que j'ai fait une homélie ce jour-là, la première fois. Et j'ai dit, mais Dieu, n'est pas une barre de fer. C'est pas un truc comme ça, c'est Dieu. Moi, je vis avec Dieu, je fais ce que Dieu me demande, je fais la volonté de Dieu, j'obéis à Dieu, je crois qu'il y a quelque chose, je crois qu'il y a Dieu. Et toutes les religions, c'est des gens qui disent qu'il y a Dieu, Dieu est un, il y a un seul Dieu, très bien, enfin, et encore, il y a des religions du diable qui disent que non, il y a des centaines de dieux, ouais, très bien, mais enfin, disons, des gens un peu... Les gens qui croient, qui ont la foi. Ça leur suffit de dire, moi je crois en Dieu, la très sainte Trinité, ils ne connaissent pas. Même dans les autres religions, c'est pareil, l'islam. Mais non, vous associez Dieu pour dire qu'il est deux ou trois, ça ne va pas du tout. Il y a Dieu, un seul Dieu, Allahu Akbar, c'est tout. C'est Dieu qui est grand, voilà, et je vis avec Dieu. Mais celui qui vit avec Dieu, et qui n'a pas compris que Dieu n'est pas un morceau de fer. C'est qu'il n'a jamais cru en Dieu de toute sa vie. Et si vous êtes musulman, pas seulement les musulmans, tous les autres, tous les catholiques, tous les chrétiens, etc., disent, mais moi, de vivre à l'intérieur de la nature éternelle de Dieu et voir qu'il y a trois personnes, et ça change totalement toute ma vie. Mais celui-là, il n'a pas la foi, c'est tout. Hein. Pourquoi ? Parce que Dieu, on l'aime ou on ne l'aime pas. Alors on considère que la très sainte Trinité n'est pas une chose importante, ça ne change pas. L'essentiel et le temps de ma journée n'est pas essentiellement tourné vers cette émanation des trois personnes de la très sainte Trinité dans ma vie intérieure et extérieure. Et alors si c'est ça, c'est parce que je ne l'aime pas. Et je ne l'aime pas parce que je ne le connais pas. Et je ne le connais pas parce que je n'ai pas la foi. Mais si j'ai la foi, je connais Dieu, et je rentre à l'intérieur de Dieu, et il y a une nouvelle naissance dans ma vie en communion avec Dieu, qui fait que je comprends que Dieu n'est pas quelqu'un qui n'existe pas. C'est quelqu'un qui est vivant. Et comme il est vivant, ça bouillonne à l'intérieur de Dieu. C'est une rencontre d'amour. Mais Dieu, et c'est pas un égoïste substantiel en acier qui s'est arrêté à son propre amour. Et non, ça bouillonne là-dedans. C'est plus que liquide. C'est un tourbillon, c'est un théâtre intérieur de rencontre intérieure à l'intérieur de Dieu. Il y a de l'amour. Et s'il n'y a qu'une seule personne, une seule hypostase et une seule nature, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Et alors, Et forcément, il y a à l'intérieur de Dieu une vie, une puissance d'amour qui implique bien sûr qu'il y ait cette... Et Jésus nous a révélé que c'était... qu'il y avait trois hypostases. Enfin, qu'il y avait trois personnes. Un seul Dieu, oui, mais trois personnes à l'intérieur de Dieu. Alors, les gens... Et je ne m'y attendais pas du tout. Parce que les gens, il y avait beaucoup de monde. Hein, c'était obligé de faire ça dehors parce que ça ne rentrait pas dans la basilique. Et bien, les gens étaient furieux. Tous ces catholiques qui venaient de partout, là, ils étaient furieux. Ils n'étaient pas contents. Hein. Ils n'étaient pas contents que d'avoir entendu le prêtre dire que croire en Dieu sans comprendre, sans voir qu'il y avait une vie très très profonde, très d'amour, de lumière, des rencontres intérieures, des vies en Dieu, qui une relation, un face-à-face, un amour de Dieu pour Dieu, de Dieu pour Dieu, à l'intérieur de l'unique Dieu, ces trois personnes de la très sainte Trinité. Dieu est vivant, quoi. Et il faut pénétrer à l'intérieur de la très sainte Trinité, voilà pourquoi on est là. Ils n'ont pas supporté. Pourquoi ? Parce que Et bien pourquoi ? Parce que les catholiques ne vivent pas la très sainte Trinité. Si moi je veux obéir à la volonté de Dieu, puis c'est tout. C'est-à-dire c'est une morale. Et chacun vit de la volonté de Dieu comme il conçoit la volonté de Dieu. L'éternelle volonté de Dieu, je vis de l'éternelle volonté de Dieu. Enfin c'est ta conception de l'éternelle volonté de Dieu. Non, chacun vit avec sa conception de l'éternelle volonté de Dieu. Montre-moi comment tu vis. Montre-moi tes actes intérieurs et je te dirai si c'est la volonté éternelle de Dieu ou si c'est ta volonté éternelle de Dieu. Ce qu'explique Saint Jacques. Eh, faire attention. Une lumière est apportée, hein, c'est ça. Saint Athanase. Puis Saint-Hilaire de Poitiers, alors il y a eu le concile. Et le concile, dès qu'il ben, on a fait revenir, bien sûr, avec la puissance du Saint-Esprit, ben, tout simplement hein, les transmissions infaillibles. Les transmissions infaillibles reçues des apôtres ont fini par être écrites, cette fois-ci, dans les conciles. C'est qu'à l'intérieur de Dieu, il y a des relations vivantes. Il y a des relations substantielles derrière de Dieu, avant la création du monde. Et que Dieu est le terme terminant de ces relations subsistantes. Et qu'il y a des relations de lumière. Il y a deux grandes relations subsistantes à l'intérieur du Dieu et vivant de lumière et d'esprit. Dieu est vivant d'amour et d'esprit. Et donc, il y a trois termes terminants, puisqu'il y a deux relations. C'est extraordinaire, ça. Et Jésus, il a expliqué ça à ses apôtres, parce qu'il a dit, il a expliqué la relation qu'il avait avec le Père, et la relation que du Père et du Fils, et avec le Saint-Esprit. Et il a expliqué ce que c'était qu'une relation. Regardez, c'est extraordinaire. Mais tiens, la très sainte Trinité, quand on a affaire à des catéchumènes un peu adultes, on fait les questions et les réponses. Alors on dit, ben voilà, le minimum à savoir quand même pour le mystère de la très sainte Trinité, savoir, c'est une chose. Mais pénétrer et naître avec dedans pour y resplendir et s'épanouir. Dieu, il y a un seul Dieu. Alors tu l'adores. Mais il y a deux relations. C'est de la lumière à la lumière. C'est de la source de la lumière à la contemplation. Dieu est un contemplatif. Il contemple Dieu. Donc Dieu est contemplé, Dieu contemple. Il y a une relation. Il y a deux relations. La relation d'amour. Dieu est le principe incréé, substantiel d'amour et il en jouit. Et donc il y a un seul Dieu, oui, tu l'adores. Il y a deux relations. Alors, il y a deux relations, alors. Tu te laisses attirer. Et tu pénètres, et tu adhères. Dans ces profondeurs. Et comme il y a deux relations, il y a trois relations, terme terminant, dans les relations subsistantes. Et ces trois termes terminants des relations subsistantes sont trois hypostases, sont trois personnes. Alors du coup, tu le contemples. Et ces trois ont une seule nature, une seule gloire. Ah, c'est pour ça que tu ne te contentes pas. De le contempler. Tu vis avec lui pour le clarifier. Et tu l'aimes. Et tu te laisses aimer. Et la très sainte Trinité, c'est qu'il y a une seule Dieu. Une seule Dieu. Un seul, une seule nature divine. Deux processions. Trois personnes. Quatre relations subsistantes. Comme ces quatre relations subsistantes se réalisent seulement en trois hypostases, ben il est nécessaire, bien sûr, qu'il y ait un principe d'unité dans cette vie intime et éternelle de Dieu. Et c'est pourquoi il y a la sagesse. C'est pour ça qu'il y a un appel à la sagesse à l'intérieur de Dieu. Et alors, je sais pas, vous avez vu, on a lu le livre des Proverbes, chapitre 9, dans les liturgies de la solennité de la très sainte Trinité, de mode extraordinaire, c'est pas le livre des Proverbes. Ce passage du livre des Proverbes, il se lit pour la solennité de l'Immaculée Conception. Et elle est créée. Elle est le réceptacle, si je puis dire, du mystère vécu de la très sainte Trinité, dans son unité, dans ses hypostases, dans ses relations de procession de lumière et d'amour dont elle est le cœur unifié du terme de ses processions, de chacune de ses processions. Et du coup, elle est celle qui voit et qui engendre aussi. Elle est l'accompagnatrice, elle est du mouvement intérieur de Dieu qui regarde vers ce qu'il va créer. Ça, c'est l'Immaculée Conception. Et ce texte-là est donné maintenant pour la solennité de la très sainte Trinité. Et dans la liturgie du mode ordinaire, le jour de l'Immaculée Conception, on a un autre texte que celui-là. Mais comme nous vivons, comme le Père et le Fils vivent ensemble dans l'unité du Saint-Esprit, nous vivons des deux modes extraordinaires et ordinaires de la liturgie. On comprend qu'il y a une périchorèse, circonvallation entre le mystère de l'Immaculée Conception et le mystère de la très sainte Trinité. C'est beau de savoir ça. Parce que Dieu n'est pas créé. Dieu est incréé. La sagesse l'était créée avant la fondation du monde. Elle est au principe, dans le principe de la fondation du monde. Et parmi toutes les la litanie de ce qu'elle est, dans la Très Sainte Trinité, que la Très Sainte Trinité est, elle est pas seulement l'image et la ressemblance de la Très Sainte Trinité dans l'unité de toutes ces hypostases, dans ces termes terminants. Elle n'est pas seulement non plus le recueillement des deux processions terminantes à l'intérieur de la sagesse. Elle est la révélation de la Très Sainte Trinité, de la révélation de Dieu elle-même. Elle est la sponsalité du Père, la sponsalité du Fils, elle est la sponsalité du Saint-Esprit. Ce que dit saint Thomas d'Aquin. Et oui, elle a une relation en tant qu'immaculée conception de sponsalité. Le Père, sinon, elle ne serait pas la mère de Dieu le Fils. Et qu'elle ait une relation sponsale de sponsalité avec le Saint-Esprit. Je pense que c'est clair pour tous ceux qui ont une vie transformante à l'intérieur des émanations, des personnes divines de la Très Sainte Trinité. C'est pour ça que ça ne se répand pas comme ça à l'infini, comme dans le monde énergique, mais au contraire, ça se concentre dans l'absolu incréé. La différence entre l'incréé absolu et l'infini. Hein. Et attention, à ce moment-là, cette concentration, elle a trouvé son point de rencontre avec l'Immaculée Conception, dans l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est l'acte pur de Dieu, l'éternel de Dieu. Dans tout ce que l'Immaculée Conception est en puissance, ces deux personnes de l'Immaculée Conception et du Saint-Esprit sont deux personnes qui se conjoignent ensemble. Et il est l'époux par la relation d'accomplissement de l'acte pur à l'intérieur de la nature de Dieu, en amour, de l'Immaculée Conception. L'Esprit Saint soit l'époux de l'Immaculée Conception, que Marie et l'Esprit Saint comme étant l'acte de ce qu'elle est en puissance, ça tient à laisser à l'existence métaphysique de la liberté intime, de la nature divine de Marie. Une sponsalité, elle est engendrée par quand Dieu l'a créée, il l'a créée sagesse depuis la fondation du monde, depuis le terme terminant, la glorification de toutes choses, depuis son inscription dans le livre de vie, elle est l'engendrée de Dieu. Elle est l'engendrée vivante de Dieu dans la création. Et de ce point de vue-là, il y a une sponsalité entre elle et l'union hypostatique du Fils unique de Dieu, c'est sûr. D'ailleurs, on le dit bien, nouvel Adam, nouvelle Ève. C'est pas en raison de l'humanité qu'il y a nouvel Adam, nouvelle Ève, qu'il y a une sponsalité avec la première, deuxième personne de la Très Sainte Trinité. Parce que l'hypostase dans le Christ, elle est incréée, une personne divine. Et donc la sagesse qui est ici est sponsalité avec l'hypostase incréée du déploiement de la manifestation de Dieu qui se manifeste Dieu à lui-même dans le glorifiant. Et Marie est l'épouse de chacune des trois personnes de la Très Sainte Trinité. Et donc parmi les litanies du livre du Proverbe, il y aurait tellement à dire, mais quand j'aime bien celui-ci, aujourd'hui, vous savez, vous connaissez notre histoire. sur la fin, ce qui Lucifer cherche à dévaster, c'est l'origine et la fin. Quand il établissait, oui, si bien. J'étais là, quand Dieu établissait les fondements de la terre. Et j'aime bien cette phrase-là, figurez-vous. Les fondements, rappelez-vous toujours, dès que vous verrez dans la Bible ou dans un texte du Saint-Père, le mot fondement. Levez vite, vite vos antennes. Ah. Et que l'alarme sonne. Les fondements. Quand il a rencontré le pape Kirill à Cuba, le pape François et lui, ils ont signé un document disant « Nous sommes extrêmement attentifs ensemble à proclamer en Dieu les fondements de la vie de l'homme. » Et le pape avait dit, Jean-Paul II, Dieu crée à son image et à sa ressemblance la vérité dans le corps de l'homme à travers un génome qui se constitue. Et ce génome a une dignité anthropologique qui trouve son fondement dans l'âme spirituelle qui imprègne la vie. Et ce génome relation métaphysique qui ne dépend pas du tout du déploiement dans le temps dans lequel nous sommes. Il y a un fondement métaphysique. C'est notre existence est enracinée dans l'existence sacrée de Dieu. Notre liberté est enracinée métaphysiquement et ontologiquement dans les castons, comme relation métaphysique entre nous et la Très Sainte Trinité. Pas seulement entre nous et l'unique créateur en Dieu. Les trois, en fait. C'est pas le Père qui est créateur et puis le Fils qui est rédempteur et le Saint-Esprit qui est glorifié, qui est... Voilà, qui est... Non, les trois, en un, sont à égalité créateurs. Dieu le Père, première personne de la Trinité, n'est pas le seul des trois personnes dans l'hypostase, la seule hypostase, à être le principe de la création de mon âme et de l'unité de mon corps. Mais les trois, c'est l'unité. À cause de ça que quand Dieu est un, je l'adore, parce qu'il est mon créateur. Mais comme j'ai une relation intime dans mon existence métaphysique avec la Très Sainte Trinité, c'est-à-dire l'acte créateur, je suis créé pour dans la sagesse de Dieu. Et dans la sagesse de Dieu, je suis créé pour être engendré éternel de Dieu dans le Fils. Et donc, pour venir me rejoindre, m'engloutir, me conjoindre et disparaître dans ma source, et la source de l'engendré éternel de Dieu, Ben Elohim, c'est la première personne, la première hypostase. C'est pour ça que l'adoration sanctissime du chrétien se termine et s'accomplit dans l'adoration en esprit en vérité, dans le sein du Père. Eh bien, j'étais là. J'étais là quand Dieu établissait les fondements de la terre. La terre, c'est le corps spirituel. Vous voyez ça dans la Bible. Dieu créa le ciel, c'est-à-dire le monde angélique, et la terre, c'est-à-dire la prière vivante et spirituelle de l'homme. C'est dans une matière vivante, c'est la terre. La terre de Dieu, c'est le corps du Christ. La terre promise, la terre du Messie. Et bien les fondements de la terre, Dieu m'a établi dans le oui, des fondements de la terre, de toute chair. Et ça, ça fait partie, hein, de la, des deux portes d'entrée dans le mystère de la très sainte Trinité. L'origine créatrice du corps spirituel et les récepteurs. La sagesse de l'Immaculée Conception, parce que la sagesse de l'Immaculée Conception, elle, c'est pas écarté, même de l'image ressemblance de Dieu, dans la plénitude de grâce. Et son oui s'inscrit dans ce qu'elle est, en sa subsistance elle-même, en la sagesse qui a précédé et qui déploie le barachite dans une fécondité et un déploiement du barachite dans sa fécondité. C'est pour ça que c'est elle. Eh bien, la terre, c'est-à-dire l'être humain, est image-ressemblance de la très sainte Trinité. Et alors là, les pères de l'Église, les docteurs, on peut pas, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça. On va avoir, sous le sceau du Saint-Esprit, de quoi déployer, développer les univers, les abîmes, les limites, les profondeurs, mais aussi, je sais pas moi, les couleurs, les parfums, les réels, les descriptions les plus exactes, les plus réelles, les plus tranchantes, les plus verticales, les plus transcendantes, les plus immanentes, les plus recevantes, les plus assimilables, le mystère de la très sainte Trinité, à partir de l'image ressemblance de Dieu que nous sommes dans la sagesse originelle, dans la créateur de Dieu sur nous. Mais disons, on va en retenir deux, c'est la solennité, celle de saint Augustin, par exemple, bon, qui est, voilà, nous sommes image ressemblance de Dieu, en étant transsubstantiés en sagesse, déployés dans les mains de Dieu, dès cette terre, parce que nous avons parce que nous avons une vie spirituelle dans le corps, qui est une vie contemplative, qui est une vie pénétrante de la substance de Dieu. Et nous avons une vie d'amour, une capacité de nous effacer et de nous donner totalement, en nous séparant totalement de nous-mêmes, dans un amour fou pour Dieu. Nous avons cette capacité d'aimer en disparaissant totalement hors de nous-mêmes. Ce n'est pas une activité de la volonté humaine, c'est une activité de toute la personne, corps, âme, esprit, de toute la personne. Et on a cette capacité-là. Et donc on est image-ressemblance de Dieu parce que on a une intelligence spirituelle capable de pénétrer, de voir, de toucher, de contempler, d'assimiler, de vivre de l'autre. Et nous avons cette capacité de nous donner dans l'amour, mais dans un amour d'extase, de ravissement. On est assumé entièrement par l'autre et disparu en nous-mêmes, corps, âme, esprit. Une capacité d'amour Et ça, cette double capacité, c'est celle qui fait la Très Sainte Trinité. Parce que la Très Sainte Trinité, il y a cette capacité d'aimer, qui trouve son terme terminant dans l'Esprit Saint, et cette capacité de lumière, qui trouve son terme terminant dans le Verbe de Dieu, et la conception même de Dieu. Mais le Père, lui, n'est jamais envoyé, hein, le principe, bien sûr. Alors, du coup, on est image ressemblance de Dieu parce que on a trois puissances de vie spirituelle. Ça, c'est le Saint-Augustin. Voilà, voir en quoi nous sommes dans la chair et dans l'âme et dans l'esprit. Image ressemblance à la Très Sainte Trinité. Et puis, bon, je laisse d'autres qui. Saint Jérôme, ben, ouais, on est corps, âme et esprit. Mais attention, l'Église a quand même précisé, attention, c'est une image métaphorique là, cette fois-ci. Donc je vais aller. Mais c'est quand même vrai aussi. On est trois en un homme trois. On n'est pas binaire. Notre vie intérieure n'est pas binaire. C'est pas deux, on est trois. Ben oui, parce que c'est pas. Il y a l'âme, mais il y a. Nous sommes spirituellement, substantiellement spirituels. On n'est pas seulement libre dans l'émanation de notre vie intérieure. Et il y a aussi le corps qui est récepteur de Dieu. Il y a ces trois aspects. Et on a toujours eu à lutter contre les stoïciens, parce que les stoïciens ont une vision binaire de l'homme, comme la gnose d'ailleurs, yin, yang, comme le manichéisme, le mal, le bien. Souvent les chrétiens, leur vie c'est quoi? Ben oui, j'essaie de faire le bien, d'éviter le mal. Ben, c'est du manichéisme. C'est du bouddhisme en fait. On est trois. Et le pape Jean-Paul II, il a dit, il faut anéantir cette vision. Dual de l'homme, cette vision dialectique de l'homme. On n'est pas deux, on est trois. On est image de la Très Sainte Trinité. Le corps, c'est un corps primordial, c'est un corps accompli. C'est un corps sponsal. La signification sponsale du corps montre que le corps, l'âme et l'esprit font de l'homme, la personne humaine, une trinité, si je puis dire, un miroir de la Très Sainte Trinité, et surtout la signification sponsale de notre vie, notre existence, notre oui originel, c'est un oui de sagesse primordiale, c'est un oui de gloire accomplie, et c'est un oui dans la signification sponsale du corps qui doit cheminer du principe jusqu'à son acte accompli. Il y a les trois aspects. Et en ayant, en pénétrant grâce à la révélation de la Genèse, à l'intérieur de l'image ressemblante de Dieu, dans le corps que Dieu crée, en créant la nature humaine, le pape pendant 3 ans et demi va expliquer que la signification sponsale de la vie humaine image ressemblance de Dieu, et que si on est image ressemblance de Dieu, c'est parce que on a mis en place la signification sponsale de notre vie, et cette signification sponsale fait qu'on est trois tout en étant seul, parce que je suis masculin, mais du coup je suis seul, mais je suis dans la signification sponsale de mon corps en l'accomplissement et dans la sagesse. Et donc, il y a un autre. J'ai une moitié sponsale dès le départ. Et je suis appelé à me perdre en amour dans l'unité des deux. Et mon corps n'est pas pour moi seul. Il est pour cette mise en place de la signification responsable de ce qu'il est, toutes ses capacités, parce qu'il est image ressemblante de Dieu. Il faut mettre en place la signification responsable du corps, du cœur, de l'âme et de la personne. Pourquoi ? C'est l'image de la Très Sainte Trinité, mais tout simplement, et vous le savez bien, parce que les deux premières personnes de la Très Sainte Trinité ne sont pas que lumière et amour, elles sont aussi responsabilité. Et celui qui joue le rôle de l'épouse, c'est le Père, c'est le principe, c'est le Saint-Saint. Et celui qui joue le rôle de l'épouse, eh ben, c'est le Verbe, c'est l'épouse. Et Dieu épouse l'époux, et Dieu est l'épousette de l'époux, et l'époux de l'épousette, et les deux, dans leur solitude sponsale, se réalisent dans une unité de nature divine, qui fait qu'il n'y a plus qu'une seule épousaille, et que cette épousaille, ben, elle émane et elle fait disparaître tous les deux, dans une joie. Fruition incréée, éternelle, de sponsalité, de la dignité. Et que Dieu est sponsalité. Et nous aussi, nous sommes hommes, femmes. Et présence de l'au-delà, de l'homme et de la femme, dans l'humanité intégrale de l'unité des deux extasiés, derrière de Dieu. Et que ça, c'est une analogie, vous voyez le mot analogie, plus fondamentale, vraiment, fondement, que l'analogie de saint Augustin, comme quoi on est amour, volonté, intelligence, contemplation, et source de notre propre vie libre. Eh bien, l'analogie sponsale est une analogie qui est plus profonde, dit le pape Saint Jean-Paul II. Plus fondamental, plus ontologique. Parce que, après tout, en disant qu'on est image ressemblance de Dieu, à la manière un peu classique, notre âme, elle est se déploie au-delà d'elle-même dans l'amour et dans la lumière à cause de la volonté et de l'intelligence et ce déploiement est le sien. Ben oui, mais alors du coup le corps il est où dans l'image ressemblance de Dieu? Vous comprenez? Mais non, c'est la personne humaine, l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit qui est image et ressemblance de Dieu. De la personne. C'est pour ça que l'enseignement du pape Jean-Paul II, vous voyez, est quand même un rappel, et un rappel pour faire remonter à la surface le mystère de la Très Sainte Trinité qui est toujours tendance à partir sur le côté, dans la vie chrétienne, dans la vie intérieure surnaturelle, les engendrés éternels de Dieu dans les lieux transformantes. Toujours une tendance. C'est peut-être le mystère le plus fragile à conserver, le plus précieux à entretenir, à cultiver. Eh bien, ça, c'est sous cet aspect. J'étais là quand il établissait les fondements de la terre. Et le pape, quand il parle de ça, Dieu établit les fondements dans le génome de l'âme spirituelle qu'il imprègne et le vivifie. Ces fondements sont dans la responsabilité. Un verset qui précède. Mais ça, c'est. Eh bien, de célébrer la messe dans la Très Sainte Trinité, dans la solennité de Trinité, en pleine neuvaine du Sacré-Cœur. Cette fécondité. fécondité de la sagesse immaculée, assumée de Marie, qui elle s'inscrit dans la durée de Saint-Joseph pendant ces 19 jours. Nous nous inscrivons dedans pour réengendrer que Dieu et la Sainte Famille Glorieuse réengendrent en nous de manière pontificale, de manière royale, de manière réelle, de manière incarnée, le corps spirituel venu d'en haut, dans la pleine signification intérieure de sa vie redonnée hein, dans la Sainte Famille. Et alors là, il y a une fécondation, pas seulement spirituelle et surnaturelle. Voilà pour la première analogie, Saint-Augustin. Mais il y a une fécondation, une recréation et un réengendrement aussi sur le plan de l'incarnation du corps spirituel. Voilà pour l'analogie de Saint Jean-Paul II. Catéchisme. Credo in nonum Deo, Patrem omnipotente, Factorem celi et terre, Visibilium omnium, et invisibilium. Et in nonum Dominum Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, L'homme de lumine, Deum vero, de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram saluter, descendit et celi, et incarnatus et l'Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus et resurrexit tertia die secundum scriptura Et ta chandit in cielo, sedet ad dexteram patri. Et iterum ventos est cum gloria, iudicare vivos mortuos, cuius regni non erit fini. Et in spiritum sanctum dominum et vivificante qui ex patre filioque procedi qui cum patre et filio simul adorato et cum glorificato qui locutus est per profetas et una sancta catholica et apostolica ecclesia confiteo unum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vita venturis seculi. Amen. Amen.